bienvenue. Bienvenue pour le 15e épisode de Déclencheur, le podcast qui parle photo. Trois segments dans cet épisode. L'édito qui sera consacré à la promotion de Déclencheur avec une surprise. Le segment principal qui est consacré au filtre photo. Et enfin, le troisième segment avec vos commentaires et vos réactions. Notez dès à présent l'adresse du site www.déclencheur.com. C'est là que vous pourrez poster un commentaire, lire les réactions d'autres auditeurs ou retrouver tous les liens présentés dans l'épisode. C'est également sur le site que vous pourrez vous abonner et on supporte les trois méthodes principales d'abonnement, l'email, iTunes ou l'abonnement RSS. Premier segment, l'édito. Je crois qu'en septembre, tous ensemble, on a vraiment franchi un cap. Les derniers épisodes l'ont montré, Déclencheur a gagné en crédibilité. Et ça me permet de vous proposer plus d'interviews et également d'aborder des thèmes que je ne serais pas capable d'aborder tout seul. Parce que je crois que c'est vraiment là l'intérêt des interviews. Si je suis seul à présenter le podcast, eh bien forcément je suis limité au sujet que je maîtrise bien. Alors qu'en ouvrant le podcast, on va éviter qu'il s'assèche. J'ai expliqué sur France Podcast que ma vision du podcasting, c'était de faire un média spécialisé, un média de niche. Partant de là, la recherche de l'audimat n'est pas une fin en soi. Mais c'est vrai que quand je parle du podcast à des personnes qui pourraient participer à un épisode, eh bien une des premières questions qu'on me pose, c'est combien d'auditeurs? Depuis le début, vous êtes partie prenante dans cette aventure, parce que Déclencheur n'a pas de budget publicitaire à proprement parler, et donc essentiellement, c'est vous qui faites connaître le podcast en parlant autour de vous, en distribuant les cartes promotionnelles, en parlant de Déclencheur sur les forums que vous fréquentez, en établissant un lien, et je vous remercie vraiment pour ces différents efforts. Et par rapport à cette démarche de promotion, j'ai une excellente nouvelle. Déclencheur a maintenant un logo qui a été réalisé par Laurent Bourselier et vous pouvez le découvrir dès à présent sur le site www.déclencheur.com. Et bientôt, on va l'introduire dans les épisodes et sur le site même. Pour nous le présenter, j'ai rencontré Laurent à Paris la semaine dernière. Je suis avec Laurent Bourselier, que vous ne connaissez pas encore, mais ça va faire un mois et demi qu'on travaille sur la communication de Déclencheur. Bonjour Laurent.
Bonjour Benoît.
Alors Laurent, tu es graphiste à Paris.
Oui, c'est ça, je suis graphiste sur la région parisienne et je sors de l'école depuis juin et là que je me lance en tant qu'indépendant.
Eh bien bravo. Alors tu nous as préparé le logo de Déclencheur. Moi je veux dire que je suis vraiment enthousiasmé par le résultat qui dépasse de loin mes espérances. Tu nous en parles un petit peu?
Ouais, pas de problème. Alors moi je suis assez content aussi parce que c'était génial de bosser sur ce logo avec toi. C'est parti en fait que tu avais besoin d'une identité. En parlant ensemble, on en a dégagé des mots-clés comme la photo, le plaisir qui était très important dans le podcast, le fait du partage et de l'échange et l'esprit de la communauté. Donc de là, on a décidé ensemble de créer un logo assez vivant qui montre bien les intérêts de la photo et puis laisser une grande place au dialogue aussi qui était important dans le podcast. Au niveau des recherches, donc je t'avais proposé des choses un petit peu institutionnelles, des choses beaucoup plus sympathiques, ludiques et plus humaines, et c'est ce qu'on a fait, je crois, avec ce logo. L'idée générale, c'était, quand j'ai écouté pour les premières fois le podcast, je me suis dit, oh là là, avec un podcast pareil, les gens vont être heureux de pouvoir faire des photos, il va y en avoir des petits oiseaux qui vont sortir. Et je me suis dit, mais c'est génial, on va partir là-dessus, l'idée de deux mascottes, deux oiseaux qui discutent ensemble autour de l'appareil photo, qui tournent autour du sujet de la photo. Et je trouvais ça assez intéressant de partir là-dessus. Au niveau de la finalisation, on est parti sur un dessin qui est assez rigoureux. Pouvoir montrer aussi l'aspect technique du podcast. Le choix typographique pour écrire Déclencheur, ça a été une typographie de ma conception, assez ronde, assez sympathique, généreuse. En même temps, elle n'est pas trop posée, elle danse un petit peu. On a quelque chose comme ça au total qui est assez drôle, assez reconnaissable et je pense qu'il correspond bien à l'idée du podcast. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est d'avoir une double lecture, comme le podcast a un petit peu un double emploi. On a le fait déjà de passer avec toi un excellent moment quand on écoute ça dans son iPod. Et puis il y a aussi le côté de s'informer, bien sûr, et de s'enrichir d'un point de vue de la photo. Pour finir la description de ce logo, je crois qu'au niveau des choix des couleurs, on avait du mal à trouver et on est parti sur le fait que le logo puisse être adaptable en fait en fonction de sa situation, comme on adapte ses réglages sur son boîtier. On a une trame de demi-teinte comme ça qui permet de donner du volume au logo quand il est posé sur n'importe quel fond coloré. Et je crois qu'avec ça, on a un logo très contemporain qui a une matérialité, un bon contraste et puis qui est polyvalent sur fond clair comme sur foncé. Et j'espère que ça satisfera tous les auditeurs de Déclencheur.
Ok, bah écoute Laurent, merci beaucoup pour cette description et merci pour ce travail fantastique sur le logo. À bientôt.
À bientôt Benoît.
Toujours sur le domaine de la communication, vous vous souvenez qu'en ces temps, Déclencheur a gagné le premier prix dans la catégorie podcast au PersoWeb 2006. Alors c'était vraiment un immense plaisir, un immense honneur d'avoir gagné ce prix, surtout que le vote était le vote du public, c'est-à-dire c'est vous qui avez voté pour Déclencheur. Alors il y avait différents prix, toute une partie justement de présentation du podcast dans les médias traditionnels, une partie s'est déjà faite et on va continuer puisque cette semaine, mercredi, je suis l'invité d'une émission sur Bell RTL, Beaufix, le matin. Par ailleurs, avec le concours venait également un voyage. Les dates qui avaient été fixées ne me convenaient absolument pas. Donc on a tiré au sort dans l'équipe et c'est Nicolas Esposito qui est parti à San Francisco. Il nous en parle.
Salut à tous, on est le dimanche 3 décembre 2006 et j'enregistre ces quelques mots depuis ma chambre d'hôtel à San Francisco. Je participe à un voyage gagné par Benoît Marchal au concours PersoWeb 2006 pour son podcast Déclencheur. Comme il ne pouvait pas y aller et puisque je participe à certains épisodes de Déclencheur, il m'a gentiment proposé de le remplacer. J'aimerais donc remercier vivement tous les auditeurs de Déclencheur qui ont voté et bien sûr Benoît qui m'a laissé sa place. J'aimerais aussi en profiter pour vous parler un peu de photos. Et puisque je suis à San Francisco et qu'il fait beau, je vais vous parler de photos en ville par beau temps. Alors San Francisco, c'est une ville très belle, très agréable. On peut y passer tout son temps à la parcourir à pied, à prendre des photos. Donc il n'y a pas de problème d'inspiration. Par contre, par beau temps, on a un fort contraste entre les zones ensoleillées et les zones à l'ombre. Alors pour contrer cette difficulté, je choisis des heures où le soleil n'est pas trop bas. Du coup, la majorité des façades peuvent être éclairées par le soleil. Ensuite, j'utilise le format RAW pour une grande dynamique. Au moment du développement du fichier sur l'ordinateur, je ne creuse pas trop les zones sombres pour garder le maximum de détails. Comme j'utilise caméra RAW avec Photoshop, je mets les tons foncés à zéro. Au niveau du développement des fichiers RAW, je redresse souvent l'horizon, je recadre parfois et j'harmonise le rendu de toutes les images avec les réglages suivants. La courbe en contraste moyen, la balance des blancs en lumière du jour et la saturation à plus 10. En ce qui concerne les prises de vue, le Canon EOS 5D et l'objectif 24-105 tiennent leurs promesses. J'exploite toutes les focales, depuis 24 mm quand je suis face à une maison par exemple, jusqu'à 105 mm quand j'isole une partie du paysage. J'ai pas besoin de pousser plus loin, parce que je me focalise pas sur des détails architecturaux par exemple. Je travaille en mode A, à 200 ISO, en mesure prépondérance centrale. Le mode A pour gérer la profondeur de champ. Je reste en général sur F11 pour avoir tous les plans nets. 200 ISO et pas 100 ISO parce que je limite justement l'entrée de la lumière avec une ouverture de F11. Et parce que certains endroits sont plutôt à l'ombre qu'au soleil. Et la prépondérance centrale, parce que je ferme souvent l'image avec des zones sombres sur les bords. Donc la prépondérance centrale ne va pas en tenir compte et va chercher à exposer correctement seulement le centre de l'image. Sur le plan esthétique, outre cet aspect lié à la fermeture des images, garde évidemment en tête la règle des tiers. J'exploite aussi la diagonale du Z dès que possible. Et puis j'essaie d'avoir le soleil plutôt dans le dos. De retour à l'hôtel, je copie mes photos sur le disque dur de mon ordinateur, mais aussi sur mon iPod pour en avoir deux exemplaires. Et seulement après, je vide mes cartes mémoire pour le lendemain. Ensuite, je sélectionne les meilleures photos, j'en efface certaines, et je traite cette sélection dans Photoshop en commençant par l'importation des fichiers RAW grâce à Camera RAW. Après, je nettoie simplement les photos avec l'outil correcteur de ton direct et l'outil pièce, par exemple pour enlever les poussières. Et enfin, j'applique un script pour générer des images de grande taille en JPEG pour les tirages et des images de petite taille en JPEG pour le web. Je termine par la publication des images sur mon site personnel, sans oublier de les annoncer sur le blog dédié à notre voyage. Voilà, j'espère que ce sujet sur les photos en ville par beau temps vous a plu. Vous trouverez ces photos sur mon site personnel. Et à bientôt sur déclencheur.com et sur rendez-vous-création.org. Salut!
Notez que toujours dans le but de faire connaître Déclencheur, je l'ai inscrit au festival de romance. Et donc je vais vous demander dans pas très longtemps, en fait, encore une fois votre soutien pour aller voter, pour aller soutenir Déclencheur. Je vous en reparle dans les prochains épisodes. Deuxième segment consacré aux filtres photo. Et quand je parle de filtres photo ici, je ne veux pas parler des filtres logiciels, c'est-à-dire ceux qu'on va trouver dans Photoshop ou dans d'autres logiciels de retouche, mais bien du filtre photo traditionnel, celui que l'on visse devant son objectif. Traditionnellement, on utilisait ces filtres pour obtenir des effets spéciaux, Mais aujourd'hui, avec le traitement informatique, je crois qu'il n'est plus vraiment nécessaire d'acheter ce type de filtre, et ce, même si on travaille en argentique d'ailleurs. Il suffit en effet de scanner ces photos et d'intégrer les effets directement depuis Photoshop. Alors, ça entraîne les avantages et les inconvénients habituels, à savoir si vous êtes allergique aux ordinateurs, bah évidemment, Photoshop n'est pas la bonne démarche, mais sinon, il vous offre la possibilité de peaufiner vos réglages et de tester différents rendus, mettre les différentes images l'une à côté de l'autre pour choisir celle qui sera évidemment la plus appropriée. Quand je parle de filtre à visser devant l'objectif, je ne pense pas non plus, en tout cas pas pour cet épisode, au complément optique. Ces lentilles que l'on fixe devant l'objectif et qui vont en modifier les caractéristiques. Avec les compacts ou avec les bridges, ces compléments servent essentiellement à obtenir un grand angle plus prononcé ou un télé plus puissant. Donc en fait, les compléments vont modifier la focale de l'objectif. En photographie réflexe, les compléments optiques sont généralement des bonnettes, des lentilles qui vont en fait transformer un objectif ordinaire en un objectif macro. Non, dans cet épisode, je me concentre sur les filtres traditionnels, c'est-à-dire ceux qu'on utilise à la prise de vue. Et en particulier, je vais vous parler des 4 filtres qui, à mes yeux, conservent une utilité en numérique. Pour ça, je pense au filtre de protection neutre, ou parfois le filtre anti-UV, au filtre polarisant, au filtre de densité neutre, et enfin au filtre de correction de la lumière, type de filtre 80A. Commençons par le filtre de protection neutre. Le principe, c'est d'avoir un filtre qui n'aura aucun effet sur la photo. Un filtre totalement neutre, donc, comme le nom l'indique. Et à quoi sert-il? Eh bien, il sert à protéger l'objectif. Alors, il y a 2 écoles en la matière. La première école vous expliquera qu'un objectif coûte relativement cher comparativement à un filtre, et donc que si vous deviez rayer ou abîmer un des deux, ben, il est préférable que ce soit le moins cher des deux. Et donc, en plaçant un filtre devant l'objectif, eh bien, c'est le filtre qui prend les risques, et en cas d'incident, l'objectif reste bon, il suffit de racheter un nouveau filtre. C'est pas un hasard si la plupart des marchands photos appartiennent à cette école, parce qu'évidemment, ça leur permet de vendre un filtre en plus d'un objectif. La deuxième école vous expliquera qu'un filtre est un élément supplémentaire qui se place dans le chemin optique, qui n'était pas prévu par le concepteur de l'objectif et qui en final n'aura d'autre effet que de dégrader l'image. Pour prendre un exemple très simple, un reflet peut apparaître sur le filtre et donc par là même gâcher la photo, et c'est particulièrement vrai pour les filtres bas de gamme qui n'auront pas été équipés d'un bon traitement, d'une bonne couche de traitement anti-reflet. Le raisonnement de cette deuxième école étant que justement un objectif est assez coûteux, et donc il est dommage de payer cher un objectif et d'en dégrader la qualité par un filtre comparativement bon marché. Alors, moi je crois qu'ils ont toutes les deux raison, et j'ai tendance à être très pragmatique en la matière. J'utilise un filtre neutre pour protéger mon objectif quand je crois que c'est utile, c'est-à-dire quand l'objectif est dans une situation à risque, et je préfère laisser l'objectif nu autant que possible. Et ce particulièrement avec un bon objectif, l'idée étant d'en conserver toute la qualité originelle. Pour prendre des exemples, si je photographie une nature morte dans un environnement de type studio, les risques pour l'objectif sont quasiment nuls et donc je ne vais pas installer de filtre neutre. Le contre-exemple, c'est la photographie sur la plage. Le risque qu'un grain de sable raye l'objectif ou s'installe sur l'objectif et le raye lors du nettoyage, là, est bien réel. Et donc avant de faire des photos à la plage, j'installe toujours un filtre neutre devant l'objectif. Après, ben, y a les situations moins typées, là où je déciderai au cas par cas. Pour les paysages et les portraits, généralement, je vais éviter le filtre. Par contre, pour faire un portrait d'enfant, je vais généralement mettre un filtre de protection, et ce, particulièrement si l'enfant joue. Il y a les risques de projection ou les risques d'avoir un doigt sale qui vient frotter la lentille frontale. Si vous demandez un filtre de protection, la plupart des magasins vous vendront un filtre anti-UV. Pour l'essentiel, c'est la même chose. Les filtres anti-UV, comme le nom l'indique, éliminent les rayonnements UV, c'est-à-dire les rayonnements qui donnent une colorante, une dominante bleue sur les horizons. Sauf que les objectifs modernes sont déjà traités anti-UV et donc le filtre fait totalement double emploi. Mais il est neutre, il ne va pas dégrader la photo plus qu'un filtre neutre, et donc pourquoi ne pas l'utiliser effectivement comme protection s'ils sont disponibles dans votre magasin. La plupart des objectifs ont en fait un filetage à hauteur de la lentille frontale et c'est là qu'on va tout simplement venir visser le filtre. Notez qu'en matière de filtre, il n'y a pas de phénomène de marque, donc c'est pas du tout comme les objectifs. Vous pouvez très bien acheter un filtre d'une marque et le monter sur un objectif d'une marque concurrente, à condition évidemment que les diamètres correspondent. Il n'y a que le diamètre qui va rentrer en ligne de compte, les filetages sont compatibles les uns avec les autres. Pour les compacts et les bridges, certains sont équipés d'un filetage et donc on procède exactement de la même façon. Certains compacts ne sont pas équipés du filetage et dans ce cas-là, on va pouvoir fixer le filtre magnétiquement ou avec des porte-filtres que l'on fixe sur le pas de vis du trépied. Évidemment, cette dernière formule n'est pas du tout adaptée pour un filtre de protection. Deux conseils importants et qui vont être valables quel que soit le filtre qu'on achète, il faut acheter un filtre d'une qualité correspondant à celle de l'objectif. Malheureusement, la plupart des magasins photo stockent et vendent des filtres qui sont plutôt des filtres bas de gamme. Et un filtre bas de gamme, c'est un filtre qui va pas nécessairement être parfaitement neutre, donc il pourra introduire une dominante colorée sur l'image. Il aura également généralement bénéficié d'un traitement couche anti-reflet qui sera moins efficace. Alors pour un objectif kit, pour un objectif bas de gamme, pourquoi pas? Si vous avez pris la peine d'acheter un bon objectif, je crois que de la même façon, il faut investir dans un filtre de bonne qualité et un filtre qui aura reçu un traitement au moins comparable à celui de l'objectif. Et donc généralement, ça veut dire un filtre plus coûteux. Deuxième conseil, que vous utilisiez ou non un filtre, il y a un accessoire qui est extrêmement utile pour protéger l'objectif, c'est le pare-soleil. C'est ce tube qu'on fixe à l'avant de l'objectif et qui sert à minimiser les reflets sur la lentille frontale. Mais il a une deuxième utilisation, il sert également à protéger l'objectif en cas de choc. Puisque, exactement comme pour le filtre, s'il y avait un choc, c'est le pare-soleil qui va prendre le choc, et donc lui va protéger l'objectif. Alors le pare-soleil a deux gros avantages en matière de protection par rapport au filtre. D'abord, lui ne dégrade jamais la qualité de l'image, que du contraire, il va parfois l'améliorer. Et deuxième avantage, il est souvent livré gratuitement avec les objectifs. Donc s'en priver serait dommage. Mais notez qu'il ne protège pas, par exemple, une rayure par un grain de sable. Donc le filtre de protection neutre ou le filtre anti-UV peut être utile. Je vous ai expliqué, il y a deux écoles. Chacune a de bons arguments. À vous de décider ce que vous voulez faire. Mais si vous achetez un filtre de protection, prenez un filtre d'une qualité comparable à celle de votre objectif. Deuxième filtre, le filtre polarisant, qu'on appelle aussi le POLA. Le POLA, contrairement au filtre neutre, lui va modifier l'image. Et de fait, il va la modifier d'une manière qui ne peut même pas être reproduite sur ordinateur. Donc c'est peut-être le seul filtre qui est vraiment encore indispensable en numérique. Le POLA sert à éliminer, ou à tout le moins à réduire considérablement, les réflexions. Et il va fonctionner avec toutes les surfaces, tous les sujets, sauf les sujets métalliques. Je vous épargne le principe physique derrière qui est lié à la polarisation de la lumière, mais si vous êtes curieux, quelques minutes sur Google vous permettront de trouver toutes les explications et les schémas de ce qui se passe dans le polarisant. Beaucoup plus intéressant est l'utilisation du polarisant. En fait, on s'en sert pour réduire les réflexions. Et donc, un des sujets pour lesquels on va presque systématiquement utiliser un polarisant, ce sont toutes les photos d'eau. Si vous photographiez un lac, une rivière, etc., un polarisant va aider. Pourquoi? Parce que les réflexions qui apparaissent sur le lac ou sur la rivière sont très très brillantes. Et si vous les photographiez sans polarisant, les reflets vont en fait dominer l'image, avec deux effets négatifs. D'abord, la couleur du lac ou la couleur réelle de la rivière est beaucoup moins visible. Ensuite, le contraste est très élevé entre les reflets, qui sont par nature presque blancs, et le lac ou la rivière, qui généralement a des teintes beaucoup plus foncées. En installant un polarisant, vous allez réduire les reflets, et donc vous allez faire ressortir la vraie couleur du lac ou de la rivière, qui est généralement la couleur du fond. L'effet est beaucoup plus plaisant. Et enfin, vous allez réduire le contraste dans l'image puisque vous allez supprimer de grandes zones de blanc dans l'image et donc vous allez éviter une surexposition. Mais le polarisant n'est pas utile que lorsqu'on photographie de l'eau. En fait, la plupart des sujets réfléchissent. Et donc, là aussi, le polarisant va se révéler utile pour exactement les mêmes usages, augmenter la saturation des couleurs, donc faire ressortir la vraie couleur du sujet et abaisser le contraste du sujet en éliminant des zones réfléchies qui seraient très très blanches, qui partiraient en surexposition. Donc imaginons, au lieu de photographier de l'eau, qu'on photographie des feuillages, eh bien, un paysage donc, eh bien, le feuillage, les feuilles vont là aussi réfléchir la lumière, de façon moins marquée que l'eau, mais elles vont quand même la réfléchir. Et cette réflexion, elle va un peu masquer la couleur naturelle de la feuille, le vert de la feuille va être moins éclatant, moins saturé. Donc le polarisant, en éliminant ce reflet, va saturer davantage des couleurs et le résultat sera beaucoup plus dynamique. Je le répète, le polarisant n'a aucun effet sur les sujets métalliques. C'est le seul sujet pour lequel le polarisant ne sert à rien. Deuxième utilisation du pola, assombrir un ciel bleu et le rendre d'un bleu plus profond. Alors ça sert à deux choses. Soit ça va servir, quand on a une photo d'été, à augmenter le contraste entre le ciel bleu et les nuages blancs, et donc à donner à la photo un côté un peu exotique quelque part, lui donner l'impression d'avoir été pris sous le ciel très bleu des îles, soit de façon plus courante, il va éviter de surexposer le ciel. Et donc vous allez éviter d'avoir un ciel qui sera blanc, je dirais cramé. Moi, je m'en sers très régulièrement du polarisant en été, simplement parce que je veux éviter d'avoir un ciel surexposé, un ciel qui est blanc, et je préfère avoir un ciel légèrement bleuté. De nouveau, il va réduire le contraste entre le ciel et le sujet principal, et donc il va le ramener dans des valeurs qui seront beaucoup plus agréables. Le polarisant, c'est un filtre qui se règle, donc on doit, quand on l'utilise, déterminer quelle réflexion on veut éliminer. Et donc le polarisant est construit autour de deux bagues. La première bague, on la visse sur l'objectif, comme on l'a vu précédemment, et la deuxième bague, elle va tourner librement. Et le principe est que vous tournez la deuxième bague, et en fonction de comment vous la tournez, vous allez éliminer certaines réflexions. Et donc ce qu'on fait en pratique, c'est viser son sujet, tourner la bague, et petit à petit on voit les réflexions diminuer, puis à un moment les réflexions réapparaissent, et donc quand elles réapparaissent, on sait qu'on allait un peu trop loin, on revient un tout petit peu en arrière, et on obtient très vite le réglage approprié. Le polarisant influence sur la mesure de l'exposition, et il va vous faire perdre, selon les cas, un diaphragme et demi, deux diaphragmes. C'est ce que je disais tout à l'heure, il va réduire le contraste dans l'image en réduisant les hautes valeurs, les valeurs les plus blanches, en éliminant en fait ces réflexions. Et donc moins de réflexions, moins de lumière qui atteint l'appareil. Normalement, c'est pas un problème. Sur quasiment tous les appareils modernes, la cellule se trouve derrière l'objectif et donc elle va automatiquement compenser pour cette différence d'exposition. Les polarisants sont malheureusement des filtres assez coûteux. Et donc le mieux, c'est de ne pas acheter un filtre par objectif, mais d'acheter le filtre le plus large dont vous aurez besoin. Donc dans mon cas, mon objectif le plus large a une lentille frontale de 77 mm. Eh bien, j'ai un polarisant de 77 mm. Et pour le monter sur les autres objectifs, on utilise des bagues d'adaptation qui, comparées au prix du polar, sont très très bon marché. Ces bagues d'adaptation sont en fait composées de deux bagues, une large 77 mm sur laquelle on va visser le filtre et une plus petite qui elle est adaptée à un objectif donné. Donc qui va avoir d'un côté, par exemple, 52 mm pour voir visser le polar sur mon 50 mm. Vous savez que c'est un objectif que j'aime beaucoup. Si vous cherchez un petit peu sur internet pour les polarisants, vous verrez qu'on vous conseille l'achat de polarisants circulaires. Alors, il y a une bonne raison pour ça. Ce sont effectivement les seuls polarisants compatibles avec les autofocus, donc avec les appareils modernes. Mais je crois que le conseil est franchement daté parce que pour trouver un polar linéaire en boutique, vous allez devoir vous lever tôt. Donc, le polarisant, c'est vraiment le filtre à acquérir sans réserve. Troisième filtre, le filtre de densité neutre. L'idée ici, c'est d'avoir un filtre qui se contente de laisser passer moins de lumière. C'est un filtre gris, il n'a pas de coloration en lui-même et il va simplement assombrir l'image. Typiquement, ce sont des filtres qui vont assombrir l'image de 2 ou de 4 diaphragmes. Pour comprendre l'utilisation du filtre neutre, il est essentiel de bien comprendre le rapport entre les paramètres de l'exposition. En deux mots, vous avez un grand choix. Soit vous choisissez de privilégier la profondeur de champ en réglant le diaphragme. Plus le diaphragme va être ouvert, plus la profondeur de champ est faible. Plus le diaphragme est fermé, plus la profondeur de champ est importante. Soit vous choisissez de gérer le flou de mouvement en choisissant une vitesse d'exposition. Si la vitesse d'exposition est basse, vous aurez un flou de mouvement dans votre sujet. Si la vitesse d'exposition est élevée, vous allez figer le sujet. J'en dis pas plus pour le moment et je vous invite à écouter l'épisode 8, l'exposition créative, si vous voulez plus d'informations sur ce sujet-là. Le problème, c'est que les deux paramètres vont fonctionner à l'opposé l'un de l'autre. Donc par exemple, pour obtenir une vitesse basse, eh bien vous allez devoir fermer votre diaphragme pour laisser peu de lumière passer par le diaphragme, ce qui veut dire que vous allez avoir une grande profondeur de champ. Si vous voulez à la fois une faible profondeur de champ et obtenir une vitesse basse pour obtenir un effet de filet sur le sujet, eh bien dans ce cas-là, malheureusement, vous êtes un peu sur la quadrature du cercle. Et c'est cette quadrature du cercle que le filtre neutre permet de résoudre. Je vais prendre un exemple très concret, et qui est l'exemple typique de l'utilisation du filtre neutre. Vous voulez photographier une fontaine, et vous voulez capturer le mouvement de l'eau, donc le filet de l'eau. Vous montez votre appareil sur un trépied, et vous choisissez une vitesse d'exposition assez lente, mettons un 1/15 ou un 1/8 de seconde, de façon à avoir vraiment tout le mouvement de l'eau qui va se fondre et avoir ne pas du tout en fait figer l'eau. Comme vous avez choisi une vitesse lente, la cellule va automatiquement choisir une taille de diaphragme appropriée. Et en pratique, elle va fermer le diaphragme pour éviter de surexposer la photo. Évidemment, s'il y a beaucoup de lumière, elle va le fermer très fort. Vous allez peut-être vous retrouver en F16, voire même en F22, donc avec un diaphragme très fermé, et donc une très grande profondeur de champ. Donc la fontaine, vous avez bien le flou de mouvement dessus, mais malheureusement, vous avez également toute la place qui est nette. Et c'est peut-être pas ce que vous souhaitez faire. Vous auriez peut-être voulu avoir une profondeur de champ qui permettait d'attirer l'attention en fait sur la fontaine elle-même. Eh bien, le filtre de densité neutre va vous permettre de combiner les deux éléments, puisqu'il va enlever 2 ou 4 diaphragmes de lumière. Ça veut dire que vous allez pouvoir rouvrir votre diaphragme de 2 ou 4 crans. Et donc, vous vissez le filtre. Là aussi, généralement, la cellule de l'appareil va automatiquement compenser. Donc, elle va automatiquement rouvrir votre diaphragme, ramener la profondeur de champ à la valeur que vous vouliez, tout en conservant, en fait, la vitesse lente. Pour éviter absolument toute confusion, le filtre de densité neutre n'est utile que si vous voulez à la fois une faible profondeur de champ et une faible vitesse avec des photos qui sont prises dans un milieu plutôt fort éclairé. Si vous n'avez pas l'habitude de faire beaucoup de sujets dans lesquels vous avez un filet, ben il est clair que ce filtre ne servira pas souvent et dans ce cas-là, ça ne vaut pas la peine d'envisager l'achat. Les rares fois où vous voudrez faire ce genre de photo, vous fermerez le diaphragme et vous accepterez que la profondeur de champ est un petit peu plus élevée que vous ne l'auriez souhaité. Un cas où il va être quand même très utile, c'est pour les compacts numériques. Parce que ces appareils ont un diaphragme qui ferme très peu, f8, f11 au maximum. Là, vu que la limitation est au niveau du diaphragme, un filtre de densité neutre trouve toute sa justification. Le filtre de densité neutre est également fort utilisé en studio pour diminuer l'intensité des flashs. Mais alors là, généralement, on va le monter sur le flash, donc il aura exactement le même effet, sauf qu'au lieu de diminuer la quantité de lumière qui rentre dans l'objectif, on diminue la quantité de lumière que le flash libère. Donc en conclusion, c'est un filtre utile, particulièrement avec un compact, mais il est, il faut le reconnaître, moins indispensable que le polarisant. Pour le filtre de densité neutre comme pour le polarisant, je vous conseille d'acheter le filtre le plus large possible et d'utiliser les mêmes adaptateurs pour le visser sur vos différents objectifs. Dernier filtre qu'on va examiner ensemble, le filtre de correction de lumière. En gros, ces filtres, c'est la balance des blancs de l'argentique. En argentique, on ne peut pas modifier la réponse du film à la couleur de la source lumineuse, comme on le fait avec un capteur, et donc les films couleurs ne sont prévus que pour fonctionner sur un seul type d'éclairage. En pratique, soit lumière du jour, soit lumière tungstène, lumière incandescente, les ampoules. Et c'est à l'aide de filtres correctifs qu'on va corriger ou éviter une déviance de couleur. Alors ça, c'est la théorie, parce qu'en pratique, c'est quand même assez peu fait, et en tout cas, c'est très peu fait par les amateurs. On va plutôt se fier aux corrections que le laboratoire de tirage fera pour ramener des couleurs réalistes. Bref, en numérique, a priori, ces filtres n'ont plus aucune raison d'être. Le réglage de la balance des blancs compense automatiquement. Sauf que les appareils ont quand même du mal avec les sources qui sont très orangées. L'éclairage artificiel, les ampoules. Il suffit de regarder l'histogramme RVB, l'histogramme à 3 couches, pour se convaincre que la différence entre la couche rouge et les couches bleues et vertes sous lumière incandescente est vraiment très très forte. La différence est très très forte. Et donc la courbe de correction que la balance des blancs va devoir appliquer est vraiment très très marquée. Et une courbe très marquée, évidemment, ça expose les défauts dans l'image. Et donc ça veut dire que soit si vous avez fait une exposition qui privilégie la couche rouge, mais dans ce cas-là, vos 2 autres couches sont un peu sous-exposées et donc la courbe de correction va faire remonter du bruit. Soit si vous avez exposé pour la couche verte et la couche bleue, dans ce cas-là, vous avez vraisemblablement brûlé la couche rouge. Dans ce cas-là, vous risquez des petites aberrations chromatiques autour des zones claires. Donc soit, si vous faites confiance simplement à la balance du blanc, vous aurez une montée du bruit dans les ombres, soit vous aurez des petites aberrations chromatiques autour des zones claires. C'est pas très marqué et les algorithmes de balance des blancs sont de plus en plus efficaces. Mais un filtre de correction de lumière va en fait appliquer un premier niveau de correction et va le faire physiquement avant le capteur, avec pour résultat de ramener les 3 couches beaucoup plus en équilibre les unes par rapport aux autres. Et donc la correction de la balance des blancs, la courbe que la balance des blancs devra appliquer, sera beaucoup moins marquée. Évidemment, quand on monte ce type de filtre, la balance des blancs calculée par l'appareil est complètement fausse. Et donc, il faut impérativement la mesurer et appliquer une balance des blancs mesurée. La technique la plus simple étant de travailler en RAW avec une charte neutre, comme on l'avait vu dans l'épisode 11. Alors, soyons clairs, c'est pas un filtre qu'on va nécessairement utiliser tous les jours. C'est vraiment un filtre pour pinailleurs. Et ce, d'autant plus que le filtre vous fait perdre deux diaphragmes. C'est un petit peu la différence qu'on a entre la couche rouge, justement, et les deux autres couches. Et au demeurant, ça montre l'importance de la correction que la balance des blancs doit effectuer. Mais je dois dire que c'est un filtre que j'ai beaucoup utilisé pendant les 6 mois après la naissance de ma fille. À cet âge-là, les bébés bougent peu, donc le fait de perdre deux diaphragmes et de devoir un peu rallonger l'exposition n'est pas vraiment un problème. Comme je l'ai déjà dit, j'évite d'abuser du flash avec les jeunes enfants. Par contre, c'est un filtre qui est assez bon marché. Et donc son achat peut tout à fait se justifier si vous faites beaucoup de photos en lumière ambiante sous éclairage incandescent et que vous êtes assez sensible au bruit dans les photos. En conclusion de cet épisode sur les filtres, il est clair que la plupart des traitements qu'on réalise avec des filtres, il va s'agir des filtres diffuseurs qu'on utilise en portrait, des filtres colorés ou des filtres plus kitsch comme les filtres à étoiles, tous ces traitements se réalisent aujourd'hui, à mon sens, de façon beaucoup plus satisfaisante avec des filtres numériques. De façon plus satisfaisante parce qu'ils nous donnent beaucoup plus de contrôle et ils nous permettent d'essayer différentes valeurs pour trouver celle qui est vraiment optimale pour la photo. Mais il y a des exceptions et le roi de l'exception, c'est le polarisant, qui est un filtre vraiment très spécialisé et qui garde toute sa pertinence en numérique. C'est clair que si vous ne deviez en avoir qu'un seul, ce serait le polarisant. Dans cet épisode, je vous ai parlé des filtres qui, à mes yeux, restent pertinents en numérique. Et vous, qu'utilisez-vous et pourquoi ? Partagez votre expérience via les commentaires sur le site www.déclencheur.com. Troisième segment, vos réactions et vos commentaires. Pour laisser une réaction ou un commentaire, vous pouvez vous rendre sur le site www.déclencheur.com. On supporte des réactions écrites ou des réactions audio. Tous les détails pour le faire sont sur le site. Premier point sur lequel vous m'interrogez, c'est tout à fait naturel, c'est la commande groupée des Y-Balles. Alors j'ai une bonne nouvelle, les problèmes de production qu'on a connus sont résolus. Notre commande est en cours de livraison. Elle doit passer par une société pour assurer l'import, donc je n'ai pas une date précise pour l'arrivée. Mais dès que les Y-Balles arrivent, je vous les réexpédie. Je maintiendrai évidemment le site à jour pour vous donner des dates ou des informations dès que j'en saurai davantage. Michael Tapes, l'inventeur du Y-Ball, je l'ai encore eu au téléphone la semaine dernière, est vraiment désolé, vous prie de l'excuser pour ses problèmes de production. Il répète que c'est la première fois que ça lui arrive en 2 ans, c'est vraiment pas de chance, mais bon. Beaucoup de réactions suite à l'épisode sur la gestion de la couleur avec Dominique Legrand, ce qui montre que c'est un sujet sur lequel vous êtes vraiment en demande d'informations. Alors divers messages d'encouragement reçus de Mathieu, de Damien Hesse, de Desmars, d'André Burléon, de Max. Merci beaucoup à vous tous pour tous ces messages d'encouragement. Katsura rebondit sur la discussion de la publicité dans Visibility qui était dans l'épisode précédent en me demandant si j'ai trouvé un modèle économique pour Déclencheur. Aujourd'hui, Déclencheur est produit sur une base complètement bénévole. Ça représente quand même beaucoup de travail de la part de Baptiste qui assure le montage des mini, de la part de Nicolas qui intervient sur différents sujets techniques, de la part de Laurent qui maintenant s'ajoute à l'équipe. Bien entendu, en plus de ça, il y a toutes les personnes qui sont intervenues de façon plus ponctuelle pour résoudre des différents petits problèmes. Donc merci à tout le monde pour cette implication. Il ne faut pas oublier également mon implication qui est quand même assez importante. Ça représente une masse significative de travail bénévole. On ne peut pas éternellement y aller de sa poche. Je l'ai déjà dit, je ne crois pas en la publicité pour un podcast. Pas pour des motifs idéologiques. Sur le fond, je peux accepter d'avoir de la publicité dans certains podcasts. Mais je crois que la publicité implique une logique d'audimat qui est pour moi incompatible avec le concept de média de niche. Je veux dire, il y a une différence entre chercher à faire connaître son travail, ce que je vous propose de faire dans l'édito, et orienter le travail en fonction de l'audimat, ce qui est ce que la pub réclamera très rapidement. Donc j'ai pas envie d'avoir à interviewer telle ou telle personne, à parler de tel ou tel thème parce que ça va faire de l'audience ou parce que ça va faire plaisir à un sponsor. Il y a certainement moyen de faire un podcast très intéressant en suivant cette logique-là, mais je crois pas que ce podcast serait déclencheur. Donc j'explore d'autres pistes. Et à court terme, la plus sérieuse pour moi, c'est simplement du service de podcasting. Déclencheur a confirmé l'intuition que j'avais, qui est qu'il y a moyen de communiquer autrement et plus efficacement par rapport aux médias écrits. J'ai une bonne expérience du média écrit, j'ai fait plusieurs bouquins, j'ai publié pas mal d'articles, que ce soit d'ailleurs sur papier ou sur Internet. Je crois qu'aujourd'hui, il y a d'autres manières de communiquer et qu'elles peuvent être aussi, voire beaucoup plus efficaces. Or, je constate dans mes clients, tout simplement, que la plupart des entreprises ont une communication interne qui est purement écrite, et c'est très inefficace. Les gens qui ont des choses à dire n'ont pas le temps d'écrire, les gens qui devraient s'informer n'ont pas nécessairement le temps de lire, je pense notamment à tout ce qui est représentant, tous les gens qui sont sur les routes, les installateurs, etc. Et je crois qu'il y aurait vraiment un intérêt à développer du podcasting en interne. C'est une idée qui mûrit, elle est j'ai pas encore une offre parfaitement, complètement ficelée. Mais je crois effectivement que c'est à court terme la voie la plus prometteuse pour effectivement stabiliser des clencheurs et avoir des revenus qui permettraient de continuer à s'équiper, qui permettraient de continuer à avoir du temps pour faire le montage et pour faire toutes ces autres activités. Les autres commentaires de l'épisode sur la gestion de la couleur sont plus directement liés à la gestion de la couleur, avec le philo qui nous a rajouté plusieurs liens très intéressants qui viennent compléter l'épisode. Franck Doyen a fait un parallèle avec le filtrage couleur qu'on pratiquait en argentique, et c'est vrai qu'effectivement, la gestion de la couleur, c'est une démarche faite de rigueur. Comme le rappelait d'ailleurs Dominique dans l'interview, cette rigueur, elle n'est pas vraiment nouvelle en photo. Katsura, Abon et Sébastien sont lancés dans une discussion sur l'intérêt d'une sonde. Nicolas C, Jean-Michel, LLR et Damien S réagissent à l'interview qu'ils trouvent soit bonne, soit pas assez complète. C'est clair que le sujet est vaste, et donc c'est un sujet qu'on revisitera dans le futur. Mister Sol réagit à un commentaire de l'épisode précédent, donc de la section commentaires, pour dire qu'il vaut mieux, selon lui, choisir la taille finale dans l'appareil photo pour éviter un double traitement, le développement de la photo et son redimensionnement. Alors théoriquement, oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord, deux traitements vont plus abîmer la photo qu'un seul, mais en pratique, je maintiens ce que j'ai dit, Photoshop va permettre, quand on fait le redimensionnement a posteriori, va permettre de bien choisir le redimensionnement, de choisir l'accentuation parfaitement appropriée à la nouvelle taille. Sur le mini profil intégré, le mini avec Dominique Legrand, Inkboy insiste sur le fait de bien choisir un espace de couleur qui soit assez large lorsqu'on active la gestion de la couleur. Fabrice, et ça n'a rien à voir avec le sujet de l'épisode, m'interroge sur ce qui me passionne en photo. Je crois que la réponse serait assez longue si je devais la développer. Donc je vais partir sur le principe du « dis-moi ce que tu lis et je te dirai qui tu es ». Voici les trois derniers livres photos que j'ai achetés. « America » d'Andrés Serrano, One to One, qui est un livre collectif sur le portrait, et Bestiaux, un patrimoine français de Yann Arthus Bertrand. Major Fatal trouve le bruit du déclencheur qui sépare les séquences un peu trop fort. Je croyais avoir résolu ce problème il y a 5-6 épisodes déjà. Donc pour le moment, je propose de ne rien changer, mais si vous êtes plusieurs à vous plaindre de ce bruit de déclencheur, on réajustera encore une fois les niveaux. Les autres commentaires en vrac, Nancy nous a dégoté un tutoriel vidéo sur l'histogram. Andersen, quant à lui, propose un lien vers un calculateur d'hyperfocal. Suite à l'épisode sur les tirages en ligne, Cyril Marcouillou réalise actuellement un test des différents labos en ligne, propose ses résultats dans les commentaires, et il demande si d'autres auditeurs sont intéressés à se joindre à lui pour faire ce test. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode, il me reste à vous remercier de votre écoute. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur le site www.déclencheur.com. L'abonnement est complètement gratuit, ça signifie simplement que vous recevrez les nouveaux épisodes automatiquement. Toutes les infos pour ce faire sont sur le site. Et le prochain épisode sera consacré au noir et blanc avec Nicolas Esposito. À bientôt !